5 heures tapantes, ouais. Mais on va mettre la sono, ainsi je peux donner les explications en même temps. Bon, je vais commencer tout comme ça, voilà, je vais essayer de pas trop perdre la voix. Donc, ça ne marche pas. Mais si on attend que ça marche.
Ah, mais il y a des fleurs. Non, mais c'est pas des fleurs, ça doit être le vent qui a amené les fleurs. C'est pas une pensée symbolique. Alors moi, je suis pas très compétent pour juger à quel point c'était un bon n'importe quoi, mais c'est vraiment toujours bizarre. Surtout que maintenant, on l'accepte.
Est-ce que tu as besoin de pelles, brouettes pour évacuer tout ça?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens disent, et ça, ça semble relativement solide, mais à nouveau, okay, hein, le futur nous dira, mélange entre homme et femme néandertalienne, vu qu'on ne trouve pas l'ADN mitochondrial, ça semble pas avoir été important. Dans l'autre sens, on n'en sait rien. Alors ces photos, c'est pas de moi, c'est juste les diables.
On met un micro à main là ou quoi?
Donc tout ce qui est les belles photos, je dirais, de néandertaliens, la responsabilité, je laisse à Guido. Voilà. Et la question en fait que posent certaines personnes, et je m'arrêterai peut-être là pour qu'on ait le temps de discuter, je ne veux peut-être pas parler nécessairement de transition néolithique, mais c'est rigolo cette histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Vous avez quelques éléments, j'espère ici, de comprendre qu'il y a des désaccords qui sont liés à des hypothèses méthodologiques. Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent et qui vous font des affirmations, s'y attendent pour 100, etc., mais qui ne vous expliquent pas...
Ils ne sont pas trop pressés, hein.
Parfois, ils ne les savent pas, parce que ce n'est pas toujours facile à formaliser. Ça, c'est une des choses. Mais par exemple, Guido me disait, ça c'est un truc... il disait, mais en fait, c'est quand même bizarre cette histoire, parce qu'on ne trouve pas d'ADN mitochondrial. Dans la plupart des cas... Quand une population humaine est arrivée...
Voilà, est-ce qu'on m'entend? On m'entend mieux? Ok, très bien. Donc, 17h tapante, ouverture du bas fourneau. Alors, que fait-on? Que se passe-t-il? On va extraire une éponge de fer d'un bas fourneau. Voici un morceau d'éponge de fer. Alors, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bas fourneau? On a réalisé une opération qui s'appelle la réduction du fer et qui consiste... à transformer du minerai de fer, donc un caillou comme ceci, voilà, c'est de l'hématite, c'est du fer et de l'oxygène. Mais forcément, ça c'est inexploitable directement si on veut faire par exemple des outils en fer. Et donc il faut pouvoir le transformer en fer sous forme métallique. D'où le bas fourneau. Alors le bas fourneau, comment ça fonctionne? On a donc une colonne en terre cuite, à la base duquel... on a hier matin, 11h, ouverture de la fête, allumé un feu sur lequel on a chargé du charbon. On a ensuite clos ce foyer, c'est la porte qu'on est en train de casser maintenant, et sur ce charbon, une fois qu'il était bien rouge, on a rechargé du charbon par ici dessus. De nouveau, une fois que le charbon est monté en température, on a rechargé. Donc cette opération, très progressive, elle a déjà pris plusieurs heures. Et vers 19h, hier soir, notre colonne était pleine de charbon, prêt à être utilisée pour la réduction du fer. Alors, nos minerais de fer, ils ont été concassés. Vous avez vu les enfants s'atteler à la tâche juste avant. Voilà, donc on le concasse. Et une fois concassé, on va en mettre sur le dessus du bas fourneau. Et ce minerai de fer concassé va descendre progressivement dans le bas fourneau. Simplement, la combustion du charbon, la colonne, l'intérieur se tasse, le charbon se tasse, et nos petits morceaux de minerai descendent dans la colonne, libérant au passage de nouveau un peu d'espace dans lequel on peut remettre de nouveau un peu de minerai, un peu de charbon. Un kilo de charbon, un kilo de minerai, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très très progressif. Et c'est cette opération qui va permettre de transformer notre minerai, puisque notre minerai, ici dedans, je le disais, on a essentiellement du fer et de l'oxygène. Et on aimerait bien, justement, se débarrasser de cet oxygène. Or, notre charbon, qu'est-ce qu'il libère? Il libère du monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone, c'est relativement instable. Et ce monoxyde de carbone, pour se stabiliser, il va justement devoir aller capter de l'oxygène. Ça tombe bien, nous ce qu'on veut c'est qu'il aille le capter dans le minerai. Donc, nos petits morceaux de minerai de fer descendent et en descendant sont exposés au courant de dioxyde de carbone qui capte leur oxygène et notre minerai perd au fur et à mesure tout son oxygène, et nos minerais, nos morceaux de minerai vont s'agglutiner dans le bas du fourneau pour former justement cette éponge. Alors cette éponge, on voit que on a de fait maintenant du fer métallique, mais dedans on a encore également des morceaux de charbon de bois et surtout plein de petits creux. Donc c'est pas exploitable directement, on peut la faire passer un petit peu. Voilà, vous allez voir, c'est déjà assez dense. Mais cette éponge, elle n'est pas exploitable directement pour faire un outil. Pour faire un outil, finalement, ce qu'il nous faudrait, c'est un lingot de fer. Donc, quelque chose comme ceci. Ici, on a un lingot scié, on voit bien, donc le fer doux à l'intérieur. Et pour ce faire, on va faire une opération qu'on appelle le cinglage. On a fait un peu de cinglage hier. Le principe est simple. On creuse une fosse dans laquelle on va allumer un foyer. De nouveau, on va essayer de développer une couche conséquente de charbon de bois. On va y enfouir notre éponge de fer. Et une fois qu'elle sera bien chauffée, qu'elle sera rouge, on va la tapoter doucement de façon à la recompacter, de façon à en extraire, par exemple, les charbons de bois qui restent dedans et à comprimer, à supprimer tous ces petits, tous les petits creux qui restaient dedans. Alors, okay. L'éponge, elle est là, très bien. Alors, je vais essayer de prendre une autre éponge, mais voilà, celle-ci. Hop là. Voilà, ça c'est celle sur laquelle on a commencé à faire le cinglage hier. Donc voilà comment elle se présente d'un côté. Il y a encore plein de charbon de bois. On la chauffe, on la tapote et au fur et à mesure, on recompacte le tout. Alors, retour à notre bas fourneau. Retour à notre bas fourneau, où donc, pour l'opération totale, on a utilisé 27 kg de minerais concassés, sans doute une bonne centaine de charbon de bois. Et donc maintenant, la question c'est, et l'éponge qui va en sortir? Voilà, c'est ça notre suspense. La difficulté, ça va d'abord être de la décrocher, puisque notre éponge, elle est ici, fixée. Et sur les éponges précédentes, par exemple, on a pu avoir des éponges de 7, 8 kilos, desquelles on tirait des lingots qui, après le cinglage, cette opération qui sert à la transformation en lingots, des lingots de environ 3 kilos. Voilà, non, c'est pas l'éponge, c'est la scorie, donc c'est du déchet en fait. Alors, je vais récupérer l'éponge qui se balade par là, voilà. Attends. Donc. Alors, quelle température est-ce qu'on a pu atteindre finalement avec un bas fourneau? Voilà. Donc, pour le moment, voilà. Donc, dans un bas fourneau, on n'atteint pas une température de fusion, on ne passe pas les 1500 degrés. La température de fusion du fer, c'est 1500 et quelques. On ne les atteint pas, mais de fait, on est monté déjà assez haut. On le sait puisqu'on a mis des sondes à différents endroits. Ça nous permet justement de contrôler un peu la température. Mais à vrai dire, nos sondes, au-delà de 1250, elles ont un peu du mal. Donc voilà, on sait qu'on a passé les 1250. Alors c'est une grosse différence évidemment par rapport au... au fourneau. Le haut fourneau, c'est ce qu'on connaît dans la métallurgie, dans la sidérurgie moderne. Alors, je vais vous pousser un petit peu. On a quelque chose de fort différent dans la sidérurgie maintenant, puisque avec un haut fourneau, ce qu'on va tirer, c'est pas une masse de fer doux qui sera forgeable, c'est de la fonte liquide, dont on va directement pouvoir couler pour faire des barres, des gueuses de fonte liquide, et de la fonte, mais on a dit qu'on voulait produire du fer. Alors finalement, c'est quoi la différence entre du fer, de l'acier ou de la fonte? Eh bien, c'est la quantité de carbone, la proportion de carbone qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a moins de 0,8% de carbone? Est-ce qu'on a 3%, etc. C'est ce genre de choses qui changent la quantité de carbone. Donc, peu de carbone, presque pas de carbone, c'est le fer doux. Et puis, quand on augmente la quantité de carbone, il y a de l'acier et puis il y a la fonte. Et donc, au fur et à mesure, on obtient quelque chose également de plus dur, de moins malléable, mais également de plus cassant. Le fer doux, en réalité, c'est encore relativement malléable. D'ailleurs, à l'Antiquité, il y a des épées qui sont faites en fer doux, eh bien, elles peuvent être tordues. Voilà.
Ils échangent, parfois il y a des migrations, parfois il y a des groupes qui disparaissent, il y en a qui sont présents au
Papa, ça fonctionne. Voilà. Donc, l'éponge, on la voit, hein, elle est bien là, seulement elle est bien accrochée. Et puis là, pour l'extraire, ben, il faut encaisser aussi la chaleur.
De façon extraordinaire.
Alors, la question, c'est que même si c'était le cas, si on se mélange avec... Ça dépend de ce que vous appelez submergé. Si vous me dites, on est arrivé, on était meilleurs, on les a tabassés, ils sont morts. Enfin, moi, j'étais pas là, à nouveau. Hein. On a, enfin, les gènes, ok, mais il n'y a pas de mélange. Donc là, ça répond pas à notre question par rapport aux gènes. Si maintenant, vous me dites, c'est on a fait des enfants avec eux, mais... Il y avait des gènes avantageux dans certaines populations. Nanana. Je me dis, d'accord, alors dans ça, où sont les autres? Parce que la majeure partie du génome se comporte de ce qu'on appelle, d'une manière qu'on appelle neutraliste. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'effet sélectif particulier. C'est pas particulièrement.
C'est le moment pour poser vos questions à la spécialiste. Hein.
Les forces de sélection ne sont pas si grandes, c'est pas si vieux que ça. On verrait autre chose. C'est-à-dire tout, c'est pour ça que je disais à un moment, moi je m'intéresse plus à la partie. Alors, je vous ai dit, on nous raconte plein d'histoires sur les gènes avantageux, sur le fait qu'ils avaient la couleur ci, qu'ils avaient les yeux comme ça.
C'est sûr que... On m'écoute, on m'entend, hein? Ah, zut, on aurait dû couper cela aussi, apparemment.
Moi, on n'entend pas.
On entend ou pas? Mais le micro est... Comment
oui, on
ah oui, on entend. Ok. Bon. Donc, ici, le problème, c'est que le bas-fourneau est encore très, très chaud. Donc, on l'a construit à la fête de l'année dernière, en briques liées à l'argile. Et ici, on l'a remonté un petit peu parce qu'on trouvait qu'il n'avait pas fonctionné assez bien l'année dernière. Et le fait de l'avoir déjà qu'une première fois et de l'avoir remonté, ça fait qu'on est monté en température beaucoup plus vite que la fois passée. Et peut-être un peu trop en température. On est arrivé... Alors, on l'a chargé, donc on vous a dit toute la journée, enfin, on a mis du charbon de bois pendant toute la journée d'hier, on a commencé à 7h du soir à mettre du minerai, on a arrêté vers 1h du matin, Et il a tout le temps ici, donc depuis 1h du matin, il aurait dû refroidir et il a refroidi très 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 lentement. Donc ici on est encore avec 700-800 degrés à l'intérieur du four. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de braise et que c'est très chaud à faire. Alors idéalement il faut essayer d'enlever toutes les braises parce que sinon c'est tellement chaud qu'on n'arrive pas à travailler. Et puis... Et essaye de ne pas faire fondre ma pelle. Ouais, le plastique dessous, ça risque de pas... Ah oui, non, écoute, il faut... S'il faut refroidir la pelle, verse l'eau sur la pelle, mais ne mets pas... Là, tu es en train de faire fondre le plastique, hein. N'enlèverai pas ce qui te reste de braise là-bas. Bon. Enlève tout ce qu'il y a dans la fosse le plus possible. Attends, enlève encore tout ce que tu peux dans la fosse. Je vais redescendre dans la fosse et essayer de... C'est ce machin qui... Comment ? Vous êtes trop loin de ma bouche. Ah, oh, quelle horreur ce bazar. Alors, voilà, si je parle comme ça, ça va ? Ok. Mais je crois que je vais le redonner au jeune homme de toute façon... je vais peut-être voir si je sais pas quand même la faire descendre comme ça. Tiens, je te rends compte, ton engin de mort.
Mon engin de mort. Alors je suis sûr que vous avez des questions, c'est quand même curieux.
Ouais, ouais, j'ai loupé le début. Mais le fer là. Tu passes pour le haut ? On peut l'emmener tel que aux camarades qui est à la forge là-bas, ils vont sortir quelque chose ou c'est encore quelque chose qui a besoin de préparation de...
Voilà, donc monsieur me demande si depuis le fer qui va sortir du bas fourneau, donc l'éponge, il y a besoin d'une préparation pour l'emmener au bas fourneau, pour l'emmener à la forge. Réponse ?
Oui.
Voilà, le cinglage. Donc, on chauffe l'éponge, on la met dans un foyer couvert de braise et très doucement, on la martèle jusqu'à justement pouvoir former un lingot.
D'accord.
Voilà.
Et le lingot.
Et voilà, le lingot, direction la forge. Voilà.
Ça pour l'an prochain.
Ouais, très doucement. Si on y va, on ne peut rien faire. Plus, non ?
Ça va casser. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on le tapote doucement quand on la chauffe, pourquoi est-ce qu'il faut la tapoter doucement? Donc on est loin de l'image du forgeron sur son enclume en train de tapoter comme une brute. Non, on parle pas de, ici voilà, il est juste entre, on la chauffe et on la tapote. On la recompacte, on la tout doucement.
Est-ce que ça fait forcément qu'une éponge ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bouts de trucs agglomérés?
Alors, est-ce que dans le bas fourneau, on va avoir une seule éponge ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs choses agglomérées? Alors, ici, ce qu'on a, c'est à la fois le fer métallique, l'éponge en tant que telle, mais il y a d'autres éléments dedans. C'est la scorie, le déchet. Par exemple, sur cette éponge, tout ce qui est ici, c'est du déchet, c'est des choses dont on voudrait se débarrasser. Et cette scorie, ben, elle peut de fait former d'autres conglomérats. On a vu tout à l'heure, on en a retiré tout un morceau. Voilà, c'est de la scorie. Et ça, ce n'est pas exploitable, on l'évacue.
Mais en fait, il y a une éponge partout de soufflage. Donc, si je soufflais à deux endroits différents sur un four plus large, j'aurais deux éponges.
Ça, il est où le panneau qui était ? Il y avait un beau panneau pour ça. Le panneau du bas fourneau, il est où ?
Là, tu disais, donc vous en avez déjà sorti avec des scories, mais est-ce que c'est possible de remettre quand c'est mal fait, enfin, de le refaire faire ainsi pour en ramener ?
C'est la liaison. Donc, attends. La question de monsieur, c'est est-ce que si on a quelque chose qui n'est pas, qui est une mauvaise éponge, en fait, finalement, de la trop de scorie, est-ce qu'on peut recommencer ? On prend notre scorie, on la remet par-dessus et on recommence l'opération. Et donc, la réponse, apparemment, c'est non.
Pour nous, c'est non. Ça s'est fait avec dans un haut fourneau, c'est possible. Donc pour les hauts fourneaux, disons EMC, qu'ils ont récupéré des scories anciennes et ils en ont refait, ils les ont utilisées comme minerais. Mais il faut être plus haut en température que ce qu'on a normalement dans un bas fourneau.
Alors pour revenir deux secondes sur cette question, est-ce qu'on peut faire plusieurs éponges de fer ? Alors quand on regarde ici le dessin du bas fourneau, on voit que l'endroit où on a eu notre entrée d'air, donc là où on allait souffler en réalité, pour lancer la combustion, pour assurer la combustion, on voit que notre éponge, elle se forme juste en dessous. Voilà. Donc plusieurs soufflets, plusieurs entrées, plusieurs éponges, oui. À quel moment on passe d'un système artisanal comme celui-là à un système industriel ? Alors, je vais un peu reformuler la question différemment, puisque finalement, des bas fourneaux, il y a des zones du monde où on en utilise toujours, en Afrique par exemple, et on pourrait même dire d'ailleurs que un bas fourneau, les bas fourneaux, ils ont parfois été utilisés à l'échelle industrielle. Par exemple, il y a des sites à la période romaine en Europe centrale où il n'y a pas un bas fourneau, pas deux, pas dix, mais des centaines, voire plusieurs milliers de bas fourneaux sur un même site. Et donc là, avec cette structure qui a l'air simple, mais finalement c'est déjà un raisonnement complexe, on a une production industrielle derrière. Mais alors finalement, d'où ça vient cette idée de prendre du minerai de fer et d'en faire la réduction ? Parce qu'on ne peut pas imaginer que les gens se baladent, puis ils disent « Ah, ce caillou, il est un peu lourd, je vais construire une tour de cette taille-là, je vais faire... » Voilà, c'est déjà un raisonnement qui est fort complexe, et finalement qui est le résultat des premières étapes de la métallurgie du cuivre, par exemple. Donc le cuivre, c'est un des premiers éléments qui a été travaillé, c'est très malléable, et ça existe à l'état natif. Donc il y a des zones du monde, par exemple en Anatolie, où... Il y a très longtemps, il y a déjà les premières traces qu'on en a, ça remonte au 9e millénaire avant notre ère, donc c'est très très ancien, ou simplement du cuivre natif, donc du cuivre qui existe déjà à l'état métallique, eh bien, était utilisé, on en faisait des petites perles. Mais du cuivre natif, c'est quelque chose d'assez rare. On ne sait pas faire de grosses productions avec ça. Et donc, avant de pouvoir vraiment développer une véritable métallurgie du cuivre, il a fallu, eh bien... trouver le système de la réduction du cuivre. Alors, la réduction du cuivre, on n'a pas besoin, par exemple, d'un bas fourneau comme ça. La réduction du cuivre, finalement, le procédé est le même, c'est via la chauffe. Eh bien, c'est un procédé qui a mis, du coup, près de 3 millénaires pour être au point. C'est vraiment, c'est vers 5500 qu'on a les premières réductions du cuivre. Mais des procédés beaucoup plus simples. On n'a pas besoin d'un bas fourneau. Elle se peut se faire, par exemple, dans une céramique. Ça suffit. Parce qu'on n'a pas besoin d'atteindre des températures aussi importantes pour le faire. Et puis, après cette métallurgie du cuivre, vous connaissez tous le cuivre et vous savez tous qu'un de ses avantages, c'est qu'il est malléable. On peut penser aux gaines électriques, par exemple. Mais du coup, pour en faire des objets dans la vie de tous les jours, usuels, c'est un sacré désavantage aussi. Il faut trouver quelque chose pour le durcir. Et donc, il y a eu la métallurgie du bronze qui a été développée en utilisant donc des alliages. Donc le bronze, c'est le cuivre auquel on va rajouter de l'étain. Mais ça a eu un grand problème, ça présente une certaine difficulté parce que même si c'est facile à mettre en œuvre, la production de bronze. La difficulté, c'est qu'il faut se procurer d'un côté du cuivre et de l'autre côté de l'étain. Or, ce n'est pas des éléments qui sont très courants. Du cuivre, par exemple, on peut en trouver du côté de Chypre. Chypre, le nom de cette île, ça veut dire cuivre, littéralement. Donc, on peut aller chercher du cuivre là-bas, à Chypre. Et pour l'étain, par exemple, il faut aller du côté de la Grande-Bretagne. Donc, c'est des éléments rares, c'est difficile. Donc, il faut des réseaux d'échange pour pouvoir assurer leur approvisionnement. Et donc, les premiers objets de bronze, la première métallurgie du bronze, finalement, elle était surtout réservée plutôt à l'aristocratie. C'était plutôt une production pour les élites. Ça s'est ensuite un petit peu démocratisé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce processus de chauffer des minerais, d'opérer une réduction, était lancé. Et c'est là que la réduction du fer, c'est très intéressant, parce que c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut des températures un peu plus importantes, mais le fer, ça présente un avantage énorme sur le cuivre ou l'étain, c'est que le fer, c'est très très abondant. Donc ça permet de démocratiser, vraiment de rendre accessible le métal à tout le monde.
Alors,
le four, on est monté trop haut en température, est-ce que c'est vraiment problématique? Finalement, qu'est-ce qui se passe si on monte trop en température? Alors, nous, on veut produire du fer, mais si on monte trop haut en température, et en plus, on est dans un environnement riche en carbone, beaucoup de charbon de bois, on risque de produire plutôt de la fonte que du fer. Alors, pour le savoir, est-ce qu'on a produit ou pas de la fonte, on pourra avoir des petites coulées de fonte dans notre éponge de fer finalement, mais la seule solution, ça va être d'aller la chercher, de la disquer, de regarder à l'intérieur. Pour ça, il faut la disquer, voilà. Mais donc, le problème avec cette température, c'est le risque de produire de la fonte.
Le problème, c'est que c'est vraiment trop chaud. Je n'arrive pas à l'attraper par en bas. Il faut l'attraper par en haut. Pardon. Et pour l'attraper par en haut, c'est encore trop chaud. Elle est tout à fait portée au rouge. Donc là, on va devoir attendre qu'elle refroidisse un peu avant de pouvoir la détacher. Mais ceux qui veulent, vous pouvez regarder par le trou. On la voit très bien. On peut faire des photos par le trou de devant. Et donc, elle est vraiment... C'est une grosse éponge qui est juste devant la tuyère à l'endroit qu'elle doit avoir.
Bon, c'est comme les séries télé, hein, le suspense est insoutenable. Alors, suite au prochain épisode, alors, quand est-ce qu'il faut revenir? Il va falloir sans doute quelques heures, plutôt demain. Sylviane, ce sera aujourd'hui ou demain? Bon. Je vous propose de passer voir dans 2 heures. Et donc, c'est vraiment l'occasion de voir une éponge dans un bas fourneau.
C'est une précédente. Oui.